Peut-être pas avant la conférence, mais au moins au début de la conférence. Que saint Thomas, c'est vrai que c'est accessible aux fidèles, mais saint Thomas exige malgré tout une certaine réflexion. À la différence d'autres conférences, où ce qu'on vous donne, ce qui n'est pas mal non plus d'ailleurs, est prédigéré, donc vous n'avez qu'à assimiler, c'est très facile. Saint Thomas, lui, eh bien, lorsqu'il parle à l'intelligence, il demande à l'intelligence de fonctionner. Donc il demande une certaine réflexion. Donc il y a un raisonnement qu'il faut suivre pour arriver donc à la conclusion à laquelle il arrive. Et c'est la raison pour laquelle c'est peut-être plus difficile que d'autres conférences. Mais malgré tout, si on a bien suivi le raisonnement, je pense que ça reste ensuite aussi plus ancré en nous. Ce qu'on a pu suivre et qui coulait de source dès le départ, sur le moment, c'est très agréable à entendre, mais ensuite, quand on vous pose la question une semaine après, alors qu'est-ce qui reste de la conférence de la semaine passée? Enfin, je n'ose pas poser la question, mais c'est vrai qu'on a pu oublier pas mal de choses. Tandis que lorsqu'il y a un raisonnement à suivre, eh bien, quand bien même on aurait oublié certaines choses, lorsqu'on reprendra le début du raisonnement, normalement, on devrait pouvoir plus facilement arriver à redécouvrir la conclusion. Alors, c'est pourquoi je persiste à croire que cette difficulté n'est pas insurmontable. Et je le pense d'autant plus que je vous retrouve en grande partie ici ce soir, les mêmes que la dernière fois. Donc, ça me rassure. Et vous le savez, la crise religieuse aujourd'hui est une crise de la foi. Par conséquent, il est nécessaire plus que jamais de nourrir la foi, nourrir notre foi, alimenter notre foi. Alors nous le faisons déjà par les sermons du dimanche, mais qui en général sont liés à un public qui est beaucoup plus large, donc qui sont souvent plus faciles d'approche. Mais ensuite, il est bon malgré tout, de temps en temps, de faire l'effort de réfléchir un petit peu au contenu de notre foi pour essayer de l'approfondir. Et cela est vrai aussi, il faut bien se le rappeler, il ne peut pas y avoir d'études soutenues sans effort. C'est lié aux conséquences du péché originel. Avant le péché originel, c'était très agréable. On pouvait apprendre sans difficulté. Et d'ailleurs, même Adam avait la science infuse, donc c'était très facile pour lui. Mais aujourd'hui, eh bien, nous devons acquérir nos connaissances avec une certaine difficulté. Alors je vous rappelle, pour les quelques personnes qui n'étaient pas là la dernière fois, que nous suivons presque servilement, si on peut dire, donc les saint Thomas, question par question, article par article, en sautant quelques articles qui sont peut-être un petit peu moins importants, et en essayant de retenir les arguments principaux pour ne pas vous noyer dans le détail. Mais je vous rappelle, et cela est très important, que dans les séries d'arguments qu'utilise saint Thomas, le premier argument qu'il utilise toujours, c'est ce qu'on appelle l'argument d'autorité. L'argument d'autorité, c'est vrai parce que Dieu l'a dit, point. C'est ça l'argument d'autorité. Et en théologie, il n'y a pas d'argument plus fort que l'argument d'autorité. Si Dieu me dit que ça se passe comme ça, c'est que ça se passe comme ça. Quand bien même mon intelligence pourrait penser que ça devrait se passer autrement. Donc l'argument d'autorité est le plus fort. Mais à cet argument d'autorité, malgré tout, s'ajoute une série d'arguments de convenance. Il convient, malgré tout, il semble logique, il semble normal, que le bon Dieu ait agi de cette façon pour telle et telle raison. Donc les arguments de convenance viennent confirmer, en quelque sorte, l'argument d'autorité. Mais quand bien même ces raisons n'apparaîtraient pas, l'argument d'autorité, par lui seul, en lui-même, suffirait pour manifester la vérité révélée par Dieu. Donc, nous poursuivons notre étude. La dernière fois, nous avons parlé essentiellement de la Sainte Vierge. Nous avons parlé de sa sanctification, de sa virginité, de son mariage avec Saint Joseph, de son annonciation. Et maintenant, nous arrivons avec la question 31 à la conception elle-même, donc le corps de notre Seigneur. Là, saint Thomas va se poser une série de questions qui ont pour but de chercher à savoir si le corps de notre Seigneur était vraiment semblable au corps des autres hommes. Ou est-ce que son corps et son sang étaient d'une autre nature que le corps que nous avons? Alors le but, bien sûr, de cette question, c'est d'essayer de réaliser que notre Seigneur a vraiment une nature semblable à la nôtre et qu'il a embrassé toutes les infirmités de notre chair humaine, hormis le péché. Premier article, la chair du Christ a-t-elle été prise de la souche d'Adam? Alors, donc, est-ce que son corps était semblable au corps des autres hommes? L'argument d'autorité est tiré de saint Paul dans son épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 16. L'apôtre dit « Le Fils de Dieu ne s'est pas uni les anges, mais il s'est uni la race d'Abraham. » Notre Seigneur n'a pas pris une nature angélique, mais il a pris la nature humaine. Donc ça, c'est l'argument d'autorité. Maintenant, argument de convenance. En prenant la nature humaine, le Christ voulait la purifier de sa corruption. Or, la nature humaine n'avait besoin d'être purifiée que parce qu'elle avait été viciée en Adam. Donc, Adam avait péché. Notre Seigneur venait racheter son péché. Donc, il convenait que notre Seigneur prit la même nature que lui. Pour cela même, il dut prendre sa chair dans de la masse commune qui émane de notre premier Père, afin de guérir notre nature par son union avec elle. Malgré tout, saint Thomas posait une objection intéressante. Il semble que non, donc il semble que la chair du Christ n'ait pas été prise d'Adam. Car l'apôtre, donc toujours saint Paul, dit aux Corinthiens, « Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme venu du ciel est céleste. » Or, le premier homme, c'est Adam. Le deuxième homme, c'est le Christ. Celui-ci ne peut donc pas venir d'Adam. Son origine est autre. Donc, saint Paul dit que le deuxième homme est céleste. Notre Seigneur étant céleste, il n'a pas dû prendre un corps terrestre commun aux autres hommes. Voilà ce que dit l'objection. Saint Thomas répond ensuite de la façon suivante. On concède que le second homme, le Christ, est céleste, mais non pas par la matière de son corps, mais par la puissance qu'il a formée, ou encore par la divinité qui réside en lui. Envisagé dans sa matière, le corps du Christ a été terrestre comme le corps d'Adam. Par conséquent, si notre Seigneur est dit céleste, ce n'est pas parce qu'il aurait eu un corps céleste, ou un corps donc différent du corps que nous avons, mais c'était en tant que son humanité était unie à la divinité. Et encore, en tant que son corps lui-même a été formé par le Saint-Esprit. Donc, dans ce sens-là, son corps lui-même pouvait être dit céleste en tant qu'émanant du Saint-Esprit. Par contre, dans une autre objection, en réponse à une autre objection, saint Thomas précise également que si le Christ qui a pris son corps dans la source commune du genre humain n'a pas contracté le péché originel, c'est qu'il n'a pas été conçu comme les autres hommes par la puissance génératrice. Si l'homme est affecté de la blessure du péché originel, c'est de par la relation qui les unit, qui l'unit à nos premiers parents. Donc c'est par le corps que notre âme est affectée du péché originel. Alors la question qui se posait, c'est si le Christ a eu un corps comme le nôtre, il a dû aussi, par son corps, donc son âme a dû être souillée par le péché originel. Mais le corps du Christ ne venait pas, comme le corps des autres hommes, d'un homme et d'une femme, mais il a été, comme on le sait, conçu par l'opération du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle son corps, émanant donc du Saint-Esprit, n'a pas été pour lui à la source du péché originel. C'est pour ça que le Christ n'a pas contracté le péché originel. Parce que notre âme vient de Dieu. Donc notre âme venant de Dieu ne peut pas par elle-même attraper le péché originel. Si notre âme est souillée à notre naissance, c'est en tant qu'elle a une relation avec notre corps qui vient, lui, de nos parents. Bon, c'est une parenthèse. Hein. Deuxième question. La chair du Christ a-t-elle été prise du sang de David ? Donc on a vu que la chair du Christ a été prise de la souche d'Adam. Donc maintenant nous avançons. Est-ce que la chair du Christ a été prise du sang de David ? Réponse, argument d'autorité pris dans l'épître de saint Paul aux Romains. L'apôtre dit expressément que le Christ a été formé de la race de David selon la chair. De la race de David selon la chair. Alors ici, l'argument de convenance, et ici saint Thomas va parler de David, mais en même temps il va aussi parler d'Abraham, puisque notre Seigneur est aussi appelé fils d'Abraham. Et il va donner deux arguments pour montrer qu'il convenait que notre Seigneur soit appelé fils de David, et puis également descendant d'Abraham. Tout d'abord, ces deux noms sont rattachés à notre Seigneur parce que la promesse du Rédempteur leur a été faite d'une façon toute spéciale. Tout d'abord, Dieu dit à Abraham, « Toutes les nations de la terre seront bénies dans ta race. » Si toutes les nations de la terre, tout le genre humain, sera béni dans la race d'Abraham, c'est parce que le Sauveur naîtrait de cette race. Donc c'est ainsi qu'on peut rattacher, bien sûr, notre Seigneur à Abraham. Genèse, chapitre 22, verset 18. Mais on le rattache également à David, puisque, comme disait le roi David dans le psaume 131, verset 11, « Je placerai sur ton trône, c'est Dieu qui parle, le rejeton de ton sang. » Le rejeton de ton sang, c'est notre Seigneur. Donc, la promesse du Rédempteur avait été faite d'une façon toute spéciale et à Abraham et au roi David. Par ailleurs, si on dit que la chair du Christ a été prise du sang de David, et si cela convenait, c'est en raison des titres de notre Seigneur. Notre Seigneur est à la fois roi, prophète et prêtre. Or, comme nous venons de le voir, à la fois Abraham et David ont eu un rôle de prophète en tant qu'envoyés par Dieu. Et puis le roi David a prophétisé, on voit dans les psaumes en particulier, une grande partie de la vie et de la mort de notre Seigneur. Par ailleurs, le roi David était donc roi, donc il était roi et prophète. Et Abraham, à son tour, était non seulement prophète, mais il était aussi prêtre. On le voit par exemple offrir une génisse au Seigneur, et pour offrir une génisse, il fallait, donc pour offrir ce sacrifice, il fallait être prêtre. Donc c'était en tant que figure du Christ qu'Abraham et David pouvaient représenter déjà le Christ. Donc la chair du Christ a été prise de David et d'Abraham en tant qu'ils pouvaient déjà le figurer en tant que roi, prophète et prêtre, selon les trois caractéristiques que le Christ devait avoir. Alors ici, une objection que je signale, mais j'y avais déjà répondu la dernière fois, enfin saint Thomas y avait répondu la dernière fois, plus exactement, mais je la reprends quand même. Comment admettre que le Christ soit dit donc de la race de David ? Saint Matthieu, en effet, a mené sa généalogie du Christ jusqu'à Saint Joseph. Or, comme on l'a dit plus haut, Saint Joseph n'est pas le père du Christ. Le Christ ne descend donc pas de la race de David. Alors la réponse à cette objection est simple. Comme on l'avait dit la dernière fois, Saint Joseph et la Sainte Vierge étaient parents. Par conséquent, le Christ descend de David par la Sainte Vierge. Mais si c'est Saint Joseph qui est nommé ici, c'est parce que dans la généalogie, telle qu'elle était conçue, eh bien, on ne nommait d'une façon générale que l'époux, que le père. Donc voilà ce que dit saint Thomas. Le manichéen Faust prétendait démontrer que le Christ n'était pas fils de David, par la raison que Joseph n'était point son père. Comme si Joseph et Marie n'étaient pas de la même tribu. Comme si ce n'était pas parce qu'ils appartenaient à la même famille qu'ils étaient venus se faire inscrire ensemble à Bethléem. Donc une des preuves que saint Joseph et la Sainte Vierge étaient de la même famille, c'est que tous deux, lors du recensement qui a eu lieu, devaient aller se faire recenser donc dans leur patrie, et tous les deux sont allés à Bethléem pour se faire recenser. C'est donc bien qu'ils étaient descendants de Bethléem. Bethléem qui était la ville du roi David. Alors maintenant, une autre question. La généalogie du Christ est-elle convenablement retracée par les évangélistes ? Alors ici, ce qui va être intéressant, ce sont surtout les réponses aux objections qu'on va signaler tout à l'heure. Mais je vous donne déjà l'argument d'autorité. La convenance de la généalogie du Christ repose sur une autorité divine. Car saint Paul dit « Toute l'Écriture a été divinement inspirée ». Donc on n'a pas à remettre en cause la généalogie que l'on peut voir dans la Sainte Écriture, puisque toute l'Écriture a été divinement inspirée. L'Écriture n'est pas le fruit d'une recherche humaine ou d'une conception humaine, mais vient de Dieu. L'auteur premier de la Bible, c'est Dieu. L'homme n'a été que son instrument. On va faire les instructions qu'on avait faites sur l'Écriture sainte il y a quelques années. Donc, toute l'Écriture a été divinement inspirée. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Par ailleurs, selon le même apôtre, les choses qui viennent de Dieu sont bien ordonnées. Donc, la généalogie du Christ a été convenablement retracée. Voilà, il n'y a pas d'erreur dans la Bible, donc la généalogie est bien retracée. Maintenant, il y a quand même au moins une objection qui paraît assez intéressante. Il y en a trois que je vais signaler, mais la première paraît quand même assez forte et mérite, je pense, qu'on s'y attarde un petit peu. C'est la deuxième objection dans l'ordre des questions que saint Thomas se pose. Il dit ceci. En rapportant la généalogie du Christ, les évangélistes se contredisent. Saint Matthieu dit en effet que Joseph, l'époux de Marie, est fils de Jacob. Et saint Luc dit qu'il est fils d'Élie, H-E accent aigu, L-I. Or, il est impossible qu'un homme ait deux pères. Alors, réponse. Il y a deux réponses qui ont été données. La première, qui à mon avis est moins valable, mais que je signale quand même, pour voir que les pères de l'Église ont toujours cherché à sauver, bien sûr, la Sainte Écriture. Point du tout, reprenez saint Grégoire de Nazianze. Donc il n'y a pas contradiction dans les deux évangiles. Les deux évangélistes désignent le même individu sous différents noms. Ce serait une manière de résoudre le problème. Jacob et Élie, en fait, c'était le même nom. Alors, bon, mais je ne retiens pas malgré tout cette hypothèse. Pour nous, dit saint Thomas, nous aimons mieux répondre avec saint Augustin que Joseph était tout à la fois fils de Jacob, qui descendait de David par Salomon, et fils d'Élie, qui en descendait également par Nathan, frère de Salomon. Voici le fait, vous allez bien comprendre. Jacob et Élie étaient frères. Élie mourut sans enfant. Et Jacob épousa, selon la loi, la veuve d'Élie. Il en eut Joseph, qui aux yeux de la loi était le fils d'Élie, puisque Élie était le premier époux. C'est ce qui fait dire à saint Matthieu, Jacob engendra Joseph. Tandis que saint Luc, qui retrace uniquement la généalogie légale, ne se sert pas du mot « engendrer ». Donc Joseph était fils d'Élie selon la loi, parce qu'Élie était le premier mari, mais il était fils de Jacob selon la réalité, puisque Jacob engendra Joseph. Ça va? C'est bon? Autre objection, mais c'est plus qu'une objection, c'est plus une précision, qui va maintenant nous montrer un petit peu le symbolisme des chiffres dans la Sainte Écriture. Saint Thomas nous dit à nouveau, en parlant des oppositions qu'il pourrait y avoir entre les évangélistes, ici ce sont plus que des oppositions, ce sont des divergences, entre Saint Matthieu et Saint Luc. Il nous dit, Saint Matthieu et Saint Luc présentent encore d'autres divergences. Saint Matthieu donne la généalogie du Christ au début de son livre. Il commence à Abraham et finit à Joseph, énumérant en tout 42 générations. Saint Luc, au contraire, cite la généalogie du Christ après le baptême. Il suit un ordre inverse. Il commence au Christ et remonte jusqu'à Dieu. En comptant les extrêmes, sa série comprend 77 générations. Donc ce n'est pas qu'il y ait des contradictions entre les deux, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas partis du même point de départ et du même point d'arrivée. Enfin, le point d'arrivée, dans un sens, ça va dans un sens et dans l'autre, en fonction qu'on part de Dieu ou qu'on part du Christ. Mais ce qui est intéressant à noter ici, c'est ce que saint Thomas nous dit, c'est le symbolisme des chiffres. Pourquoi 42 et pourquoi 77 générations? Alors tout d'abord, pourquoi 42? Ce nombre 42, dit saint Thomas, s'adapte à la Sainte Église. En effet, 42, dit saint Thomas, c'est 6 fois 7. Là-dessus, vous êtes d'accord. 6 signifie le labeur de la vie présente, parce que le bon Dieu a créé le monde en 6 jours. 7 désigne le repos de la vie future, parce que le septième jour, le bon Dieu s'est reposé du travail donc, qu'il avait fait. Et la Sainte Église représente à la fois les membres de l'Église militante qui travaillent sur cette terre et ceux qui se reposent dans l'éternité bienheureuse. Voilà pourquoi la Sainte Église est désignée par ce nombre 42. Maintenant, deuxième symbolisme dans les chiffres, c'est celui que l'on va voir en Saint-Luc et qui représente 77. Alors, 77, c'est 7 fois 11. Là-dessus, ça va aussi, vous êtes bien d'accord. Et saint Thomas nous dit, le nombre 10 est un nombre qui convient à la justice, parce qu'il y a 10 commandements. Or, le péché est une transgression de la loi, qui va au-delà de la loi. Par conséquent, le nombre 11 peut signifier le péché. Par ailleurs, le nombre 7, étant le chiffre parfait, symbolise la totalité. Par conséquent, le nombre 77 montre comment la totalité des péchés, qui étaient symbolisés par ce chiffre, ont été enlevés par le Christ. 7 fois 11, 77. Si 11 désigne le péché, 7 la totalité des péchés, notre Seigneur étant venu enlever la totalité des péchés, cette totalité des péchés était symbolisée à travers ce nombre 77. Bon, là c'est la question de la symbolique des chiffres. Encore, là je vous ai donné qu'une des interprétations possibles, pour ne pas trop compliquer les choses. Mais c'est quand même intéressant. C'est intéressant à noter. Maintenant, la cinquième objection est aussi intéressante, parce qu'elle va nous montrer à nouveau le plan de Dieu sur nous. Et en particulier, comment sa miséricorde éclate à travers également la généalogie qui est retracée dans la Sainte Écriture, en particulier par saint Matthieu. Donc, la dernière objection disait ceci. Tous les personnages qui prennent rang dans la généalogie du Christ ont eu un père et une mère. Non, on peut être d'accord là-dessus. Or, pourquoi saint Matthieu ne mentionne-t-il que quatre femmes ? Tamar, Rahab, Ruth et l'épouse d'Uri. Et la réponse est très intéressante parce qu'elle nous montre la miséricorde du bon Dieu. Le bon Dieu qui est venu pour racheter ce qui était perdu. Donc voici la réponse qui pourrait aussi nous étonner parce qu'on pense que sans doute si on avait été le bon Dieu, on n'aurait peut-être pas agi de cette manière-là. Alors écoutez, la généalogie du Sauveur, écrit saint Jérôme, ne mentionne aucune sainte femme, mais seulement celle que blâme l'Écriture. La raison en est que celui qui était venu à cause des pécheurs devait, en naissant de pécheresse, effacer les péchés de tous. Alors maintenant, juste un petit mot sur la vie de ces quatre femmes. C'est ainsi que l'on nomme Tamar, qui est blâmée pour ses relations avec son beau-père. Rahab, qui était une prostituée. Ruth, qui était une étrangère. L'épouse d'Uri, Bethsabée, qui commit un adultère, donc avec le roi David. Cependant, Bethsabée n'est pas citée sous son propre nom, mais sous celui de son mari, tant pour indiquer qu'elle fut coupable d'adultère et responsable d'homicide, puisque c'est par elle que David a tué son mari, à cause de son péché, que pour rappeler en donnant le nom de son mari le péché de David. Mais saint Luc, qui entend désigner le Christ comme celui qui purifie les pécheurs, ne fait aucune mention de ces femmes. Donc c'est quand même intéressant à noter que dans la généalogie du Christ, dans sa descendance, notre Seigneur a voulu descendre de quatre femmes qui étaient loin malheureusement d'être des modèles et qui montrent encore la miséricorde du bon Dieu. Et jusqu'où aussi il est allé pour jusqu'à prendre encore une fois la nature infirme en naissant même de pécheresse et de pécheur. Ensuite, autre question, convenait-il que le Christ naquît d'une femme ? Argument d'autorité. L'apôtre écrit « Dieu a envoyé son Fils formé d'une femme. » Galates, chapitre 4, verset 4. Donc il convenait, puisque Dieu a choisi ce plan-là et que le plan de Dieu est ce qu'il y a de plus conforme, bien sûr, à sa justice et à sa miséricorde et à sa sagesse. Le Fils de Dieu, alors maintenant argument de convenance, pouvait former sa chair d'une matière quelconque. Le bon Dieu étant tout puissant, n'est pas limité à utiliser une matière plutôt qu'une autre. Mais il convenait qu'il l'a pris dans le sein d'une femme, car il ennoblissait par là toute la nature humaine. Il ennoblissait toute la nature humaine, et donc comme il devait se faire homme, il fallait qu'il y ait aussi un lien, qu'il ait un lien avec la femme. Et c'est ainsi qu'il a voulu naître d'une femme. Ensuite, en naissant d'une femme, toujours, il établissait de la sorte la réalité de son incarnation. Si le bon Dieu était descendu comme ça, tout droit du ciel, si notre Seigneur était descendu comme ça du ciel, sans intermédiaire, on aurait pu se dire, est-ce qu'il était vraiment homme ? Tandis qu'en naissant d'une femme, eh bien, on voit bien, bien sûr, la réalité de sa chair et de son corps. Le grand docteur que nous venons de citer, écrivant à Volusien, disait très bien. Le grand docteur, en l'occurrence, c'est saint Augustin. Si Dieu, par sa toute-puissance, avait formé un homme sans le faire naître dans le sein d'une mère, et l'eût produit tout à coup à nos regards, il aurait favorisé l'erreur de ceux qui ont prétendu que le Verbe, donc la deuxième personne de la Sainte Trinité, n'avait pas réellement pris notre humanité. Et de plus, à force de merveilles, il nous aurait dérobé les œuvres de sa miséricorde. Dans le Christ tel qu'il est, nous avons entre Dieu et nous un véritable médiateur, qui réunissant les deux natures en sa personne, relève l'ordinaire par l'extraordinaire et tempère le merveilleux par le naturel. Donc on retrouve dans la Sainte Écriture et dans la vie de notre Seigneur à la fois ce côté merveilleux, ce côté extraordinaire, mais en même temps aussi ce côté naturel, ce côté qui est conforme à notre façon d'être, à notre façon de vivre. Enfin, et ça c'est intéressant à noter aussi, une telle naissance complétait les divers modes de la génération humaine. Adam, formé du limon de la terre, ne dut son origine ni à l'homme ni à la femme. Adam ayant été formé du limon. Ève, formée de l'homme, puisqu'elle est née donc, du côté de l'homme, ne dut point la sienne à une femme. Les autres hommes proviennent d'un homme et d'une femme. Il était réservé au Christ d'être formé de la femme à l'exclusion de l'homme. Cinquième question, le corps du Christ a-t-il été formé du sang très pur de la Vierge ? Bon là, la réponse est simple, il ne s'étend pas. Le corps du Christ a été formé du sang très chaste et très pur de sa mère par un mode supérieur et surnaturel de génération où la vertu même de Dieu a été le principe actif. Le principe actif, au lieu d'être un homme, a été le Saint-Esprit, comme nous le verrons dans la question suivante. Ensuite, j'y ai tout à l'heure répondu déjà rapidement, mais bon, il y a une question spéciale là-dessus, enfin un article spécial là-dessus. La chair du Christ a-t-elle été assujettie au péché dans les anciens patriarches ? Donc, est-ce que la chair du Christ, de par la relation qu'il unissait aux anciens patriarches, donc à tous ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, est-ce qu'elle aurait été assujettie au péché originel ? Bon, là, j'y ai déjà répondu tout à l'heure, mais donc saint Thomas donc, donne cette réponse ici. Autre fut la condition des patriarches, autre celle du Christ. Les patriarches furent assujettis au péché originel. Le Christ en fut exempt. Ils avaient péché en Adam. Ils avaient péché en Adam, c'est saint Paul qui dit que nous avons tous péché en Adam. Donc, de par la relation qui nous unit à nos premiers parents, nous avons péché. Et ce péché originel, comme je l'ai dit, a été contracté par l'intermédiaire de notre corps. Le péché originel atteint l'âme par le corps. C'est parce que nous naissons avec un corps qui est issu d'Adam et des patriarches par voie de génération que nous contractons la tâche du péché originel. Mais le Christ, lui, qui n'en a pas tiré son origine par la voie commune, n'y a nullement péché. Parce que justement, au lieu de naître par l'intermédiaire donc, d'un père, c'est le Saint-Esprit qui a été qui a remplacé le rôle du père. Sa chair ne préexistait point en eux comme proportion réelle de leur corps. Peu importe donc que leur chair entière ait été infectée par le péché originel, la sienne formée par l'opération du Saint-Esprit a été prise exempte de toute souillure. Rien d'impur ne s'est trouvé en elle. Bon, je pense que vous l'avez compris quand même, ce lien qu'il y a entre le péché originel que nous avons et notre corps, et pourquoi le Christ ne l'a pas, puisque donc son corps ne procédait pas d'un père, de la semence d'un père, mais venait de l'opération du Saint-Esprit. C'est bon ? Ça va ? Donc nous passons donc à la question suivante. Hein. La première question, donc nous avons déjà vu la partie qui concernait le corps de notre Seigneur. Maintenant, nous allons voir le principe actif de la conception, c'est-à-dire l'Esprit Saint. La place de l'Esprit Saint dans la conception de notre Seigneur. Donc finalement, en quelques minutes, nous allons essayer de détailler un petit peu cette partie du credo lorsque nous disons que le Christ a été conçu par l'opération du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors, première question, l'Esprit-Saint a-t-il été le principe actif de la conception du Christ ? Réponse, argument d'autorité, L'ange dit à Marie, l'Esprit-Saint viendra en vous. Saint Luc, chapitre 1, verset 35. L'Esprit-Saint viendra en vous. Alors maintenant, les arguments de convenance. Nous les avons déjà eu l'occasion de vous dire à quelques reprises que les œuvres qui sont extérieures à Dieu sont faites, sont produites par les trois personnes de la Sainte Trinité. Seulement par appropriation, nous attribuons davantage à une personne une œuvre particulière. Donc ici, en l'occurrence, saint Thomas nous dit « œuvre de la Trinité tout entière, la formation du corps du Christ est attribuée au Saint-Esprit, donc par appropriation. » Alors pourquoi a-t-on attribué au Saint-Esprit spécialement cette œuvre de la formation du corps de notre Seigneur? Et ici, il donne trois raisons. Tout d'abord, le corps de notre Seigneur est le fruit de l'amour de Dieu. Et nous le savons, le Saint-Esprit est l'amour qui unit le Père au Fils et le Fils au Père. Le Saint-Esprit est l'amour du Père et du Fils. Or, la marque la plus éclatante de l'amour de Dieu, c'est l'incarnation de son Fils dans le sein virginal de Marie. Voilà pourquoi, donc, déjà, premier motif pour lequel le corps de notre Seigneur peut être appelé, peut être attribué spécialement à l'Esprit-Saint. Deuxième raison, c'est que le corps de notre Seigneur est un effet de la grâce de Dieu. Et là encore, la grâce est attribuée spécialement à l'Esprit-Saint. Il y a, dit la Sainte Écriture, diverses grâces, mais il n'y a qu'un seul et même Esprit. Donc, ça montre le lien qu'il y a entre les grâces et l'Esprit-Saint. Première aux Corinthiens, chapitre 12, verset 4. Enfin, troisième raison maintenant, pour laquelle encore nous attribuons la formation du corps de notre Seigneur au Saint-Esprit, c'est que ce corps est saint, ce corps est sans souillure. Et le sanctificateur par excellence, c'est le Saint-Esprit. Il est l'Esprit sanctificateur d'après le même apôtre, rapporte saint Thomas, et c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1. De même donc que les autres sont sanctifiés par l'Esprit-Saint pour devenir enfants de Dieu par adoption, de même le Christ a été conçu dans la sainteté par son opération pour être fils de Dieu par nature. Donc, on attribue spécialement la formation du corps de notre Seigneur au Saint-Esprit parce qu'il est le fruit de l'amour de Dieu, il est un effet de la grâce de Dieu et il est saint. Sans souillure. Doit-on dire que le Christ a été conçu du Saint-Esprit? Argument d'autorité. Avant qu'ils eussent été ensemble, Marie fut reconnue enceinte, ayant conçu du Saint-Esprit. Saint Matthieu, chapitre 1, verset 18. Alors ici, c'est une remarque. Quand on dit que le Christ a été conçu du Saint-Esprit, on ne veut pas dire qu'il a été conçu de la substance du Saint-Esprit, mais uniquement de sa puissance. Le corps de notre Seigneur ne vient pas du Saint-Esprit comme le corps d'un enfant vient de son père. Parce que le Saint-Esprit est d'une nature spirituelle, et le corps de notre Seigneur est de nature matérielle. Mais il vient du Saint-Esprit en tant qu'il émane de sa puissance du Saint-Esprit, de sa vertu, de son opération. Donc, il ne faut pas imaginer le Saint-Esprit d'une façon physique, matérielle. L'Esprit, par définition, n'est pas matériel. C'est d'un autre ordre. Mais c'est justement par sa puissance que le Saint-Esprit a été à l'origine du corps de notre Seigneur. Alors, cette réponse que je viens de faire brièvement va vous aider à mieux comprendre le sens de l'objection, de la première objection, et sa réponse. Il semble que dire que le Christ a été conçu du Saint-Esprit soit une expression impropre. Car n'est-ce point impliqué que le Christ et le Saint-Esprit sont de même substance ? Or, le Saint-Esprit n'a pas formé de sa substance le corps du Christ. Et la réponse qu'il fait, le corps du Christ n'étant pas consubstantiel au Saint-Esprit, n'ayant pas la même substance, l'on ne peut dire en rigueur de terme qu'il a été conçu du Saint-Esprit, mais plutôt qu'il a été conçu en vertu du Saint-Esprit. Ce qui vient d'un être, observe saint Ambroise, procède ou bien de sa substance, ou bien de sa puissance. De sa substance, ainsi le Fils qui procède du Père. De sa puissance, ainsi toute chose qui procède de Dieu. C'est en ce dernier sens que Marie a reçu dans son sein ce qui venait du Saint-Esprit. Ça ne paraît pas très difficile, mais je préfère quand même le signaler, puisque c'est saint Thomas donc, qui se permet de faire cette distinction. Mais aujourd'hui, c'est pas difficile en soi, mais aujourd'hui, on est tellement immergé dans le matériel et qu'on a beaucoup de mal à concevoir le spirituel. Et donc, on cherche toujours à matérialiser ce qui est spirituel, alors que ce sont deux ordres qui sont différents. Donc, maintenant, question suivante, article suivant, pardon, troisième article de cette même question. Le Saint-Esprit doit-il être appelé le Père du Christ selon l'humanité ? Argument d'autorité tiré ici de saint Augustin. Saint Augustin déclare le contraire. Le Christ, écrit-il, n'est pas fils du Saint-Esprit, mais il l'est de la Vierge Marie. Argument de raison. Ce qui se dit de quelqu'un d'une manière parfaite ne doit pas être affirmé ensuite dans un sens imparfait. Le Christ est le Fils du Père éternel selon toute l'étendue de la parfaite filiation. Donc le Christ est Fils du Père éternel, ça nous le savons. Par conséquent, il ne saurait en aucune façon être appelé le Fils du Saint-Esprit, ni le Fils de la Sainte Trinité. Puisqu'il est Fils du Père, il ne peut pas être en même temps Fils du Saint-Esprit, ni Fils de la Trinité Sainte. Parce que ce qui est affirmé, comme dit saint Thomas, c'est la philo. Ce qui se dit de quelqu'un d'une manière parfaite n'en doit pas être affirmé ensuite dans un sens imparfait. Conçu comme homme de la Vierge Marie, maintenant c'est les objections qui vont préciser un petit peu, conçu comme homme de la Vierge Marie, c'est-à-dire formé de son sang très pur à l'image de notre nature, il est à juste titre appelé Fils de Marie. Ayant été conçu du sang de la très sainte Vierge, il est normal qu'il soit appelé Fils de Marie. Mais conçu de l'Esprit Saint uniquement comme d'un principe actif qui ne lui a pas communiqué sa propre nature, il ne peut pas en être appelé le Fils. Donc vous voyez qu'il y a toujours un lien logique en saint Thomas entre un article et un autre. Si vous avez compris l'article précédent, vous comprenez nécessairement pourquoi il n'est pas appelé le Fils de l'Esprit Saint. Si vous n'avez pas compris l'article précédent, c'est sûr que vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il n'est pas appelé le Fils. Et les cours particuliers auront lieu un autre jour, à une autre heure. Enfin, dernier article de cette question. La bienheureuse Vierge a-t-elle participé d'une manière active à la conception du corps du Christ ? C'est un peu ce qu'il vient de dire dans l'objection qu'il... En précisant dans la réponse à l'objection qu'on vient de lire, dans la conception même, l'Esprit Saint seul a formé du sang très pur de la Vierge Marie le corps du Christ. C'est par la puissance du Saint-Esprit que la conception du corps du Christ a eu lieu dans le sein de Notre-Dame. Nous passons à la question suivante. Si ça va, si vous continuez à suivre, si tout le monde ne dort pas. Maintenant, qui va concerner et qui est très intéressante, à mon avis, qui concerne le mode et l'ordre de la conception de notre Seigneur. Et après, on verra ses privilèges, ou la prochaine fois. Le corps du Christ a-t-il eu sa forme dès le premier instant de sa conception ? Donc, est-ce que le corps de notre Seigneur était formé entièrement dès la conception, ou est-ce qu'il a suivi l'accroissement, la croissance que l'on observe chez les autres êtres humains ? La formation du corps du Christ au moyen du sang très pur de la bienheureuse Vierge Marie fut instantanée. Le Verbe de Dieu s'est uni à l'humanité de notre Seigneur. Et pour s'unir à cette humanité, il fallait que cette humanité soit une humanité qui soit suffisamment formée. Ça aurait été indigne, en quelque sorte, de Dieu de venir dans une humanité qui aurait été encore qui aurait été insuffisamment formée. Et le Père Sineux, dans son livre qui traite donc de l'initiation à la théologie de saint Thomas, résume un petit peu de la façon suivante, pour mieux comprendre la différence qu'il y a eu entre notre Seigneur et nous, comprendre ce qu'il y a eu de surnaturel, de divin dans sa conception, et ce qu'il y a eu d'humain dans le mode de sa conception. Dans la génération humaine, on peut distinguer trois phases. Premièrement, l'élaboration du sang dans le sein maternel, qui est comme la préparation de la matière. La vivification de cette matière pour former un corps humain, et enfin, le développement du corps jusqu'à sa mise au jour. Si l'on ne considère que la première et la troisième phase, donc l'élaboration du sang dans le sein maternel et le développement du corps, la génération du Christ fut simplement conforme aux lois de la nature. Le sang de Marie fournit la matière de son corps, et l'enfant demeura 9 mois dans le sein de sa mère. Seule la phase intermédiaire, la formation du corps fut extraordinaire. Et cela non seulement par suite de l'absence d'éléments masculins auxquels se substituait l'Esprit Saint, mais encore en raison de l'instantanéité de la constitution de ce corps humain. La biologie observe en effet que le germe vivant n'est primitivement qu'une cellule informe, laquelle évolue peu à peu et prend plusieurs aspects successifs, avant de devenir un vrai corps humain, période à laquelle seulement il reçoit de Dieu son âme raisonnable. Or, la toute-puissance de Dieu ne saurait être astreinte à ses lenteurs, caractéristiques de l'infirmité des créatures. Si un agent se montre d'autant plus prompt dans ses réalisations qu'il est plus puissant, l'Esprit Saint dut d'emblée constituer le corps du Christ. La dignité du Christ lui-même l'exigeait d'ailleurs. Le Verbe de Dieu avait résolu d'assumer la nature humaine, mais non pas ces natures inférieures et indéfinissables qui précèdent et préparent dans le sein de la mère l'apparition de l'homme. Dès l'instant de sa conception, par conséquent, il fut un homme complet, muni d'un corps assez développé pour être animé d'une âme raisonnable. Il lui restait cependant à prendre les accroissements normaux qui le mèneraient à la naissance. Alors maintenant, cette question de l'âme, donc là il vient déjà de répondre un petit peu. Est-ce que le corps du Christ a été animé dès le premier instant de sa conception ? Est-ce qu'il a eu une âme humaine dès le départ ? Parce que pour saint Thomas, en son temps, selon aussi les connaissances de la biologie, il pensait qu'au départ, l'homme avait une âme qui était végétative à la conception. Ensuite, il avait une âme animale et ensuite l'âme humaine n'apparaissait que plus tard. Mais maintenant nous savons que dès l'instant de la conception, nous avons en puissance tout ce que sera l'homme. Donc le capital génétique permet de définir dès le moment de la conception ce que sera l'homme. Et par conséquent, nous pensons que l'âme est infusée tout de suite. Mais alors saint Thomas, donc à son époque, ne le pensait pas. Alors c'était la raison pour laquelle il se demandait si le corps de notre Seigneur avait été animé dès le premier instant de sa conception. Alors bon, nous savons que oui. Mais c'est vrai déjà maintenant de tout homme. donc a fortiori de notre Seigneur. Et dans le corps de l'article, il dit « Le corps du Christ a été animé d'une âme rationnelle dès l'instant de sa conception, car comme nous l'avons dit, le Verbe de Dieu s'est uni au même moment la nature humaine tout entière. » Donc au même instant, notre Seigneur a été doté d'un corps humain et d'une âme humaine. Après, il se demande « La conception du Christ a-t-elle été naturelle ou miraculeuse ?» Comme on peut le voir, donc il y a une partie qui est humaine, une partie qui est miraculeuse. Vous trouverez dans ce mystère, disait saint Ambroise, beaucoup de choses qui sont conformes à la nature et beaucoup d'autres qui lui sont supérieures. En effet, considérons-nous la conception du Christ du côté matériel et maternel, elle est très conforme à la nature. La considérons-nous du côté de la vertu active, c'est-à-dire du Saint-Esprit qui l'a produite, elle est totalement miraculeuse. Voilà. Encore juste quelques minutes pour essayer de voir, mais ça va être assez bref. La question 34, c'est pas long, mais c'est important parce que il y a un lien logique entre tous ces articles. Et donc, si je coupais maintenant, ça, la prochaine fois, vous ne verriez peut-être pas le lien avec ce qui précède. Donc nous avons vu que notre Seigneur a dès le moment de sa conception, son corps était suffisamment formé pour recevoir une âme humaine. Et maintenant, la question reste à savoir si notre Seigneur a eu la grâce dès le moment de sa conception, s'il a eu usage de son libre arbitre dès le moment de sa conception, s'il a pu poser des actes libres au moment de sa conception, et s'il a pu aussi donc mériter, poser des actes méritoires au moment de sa conception. Et enfin, s'il a eu la vision de Dieu dès le premier instant de sa conception. Les réponses, je pense que vous les connaissez, mais sur le déroulement logique, eh bien, je vous les donne. Le Christ a-t-il été sanctifié par la grâce au moment de sa conception ? Argument d'autorité, l'être saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu. Saint Luc, chapitre 1, verset 34. Et Saint Jean, chapitre 10, verset 36, le Père l'a sanctifié et l'a envoyé dans le monde. Nous l'avons remarqué, la plénitude de la grâce, donc maintenant c'est l'argument de convenance, qui sanctifie l'âme du Christ, dérive de son union avec le Verbe. La plénitude de la grâce dérive de son union avec le Verbe. C'est parce que l'humanité de notre Seigneur s'est unie à la divinité que cette humanité est une humanité qui est sainte. C'est logique. La divinité rejaillissait et répandait ses grâces sur l'humanité de notre Seigneur. Nous avons pareillement démontré que le corps du Christ a été animé et uni au Verbe dès le premier instant de sa conception. Le Christ a donc été, dès cet instant même, sanctifié quant à son âme et quant à son corps. Donc, dès l'instant de sa conception, notre Seigneur était rempli de la grâce de Dieu. Ensuite, a-t-il eu usage de son libre arbitre au moment de sa conception ? Doué d'une âme parfaite dès le premier instant de sa conception, le Christ posséda, à ce moment même, l'usage de son libre arbitre. Car si la perfection dernière consiste dans l'opération et non dans la puissance ou dans l'habitude, il a eu, dans ce premier instant, les opérations spirituelles qui se produisent instantanément. Or, telles sont celles de l'intelligence et de la volonté dans lesquelles consiste l'usage du libre arbitre. Donc, dès l'instant de sa conception, notre Seigneur avait une intelligence qui était déjà développée, une volonté qui était déjà orientée vers le bien. Et cela est merveilleux parce que ça montre que, dès ce moment-là, il a pu mériter, justement, et c'est la question suivante. S'il a pu poser des actes libres, il a posé des actes méritoires. Le Christ a-t-il pu mériter dès le premier instant de sa conception? Le Christ a été sanctifié par la grâce au moment même de sa conception. Mais il y a deux sortes de sanctification, celle des adultes qui exige un acte de leur part et celle des enfants qui s'accomplit seulement par la foi de leurs parents ou de l'Église. La première est évidemment la plus excellente, donc celle qui exige un acte de leur part. Or, celle du Christ a été la plus parfaite qu'il soit possible d'imaginer, puisqu'il a été sanctifié pour être le sanctificateur des autres. Par conséquent, elle s'est opérée avec le mouvement de son libre arbitre vers Dieu, mouvement très méritoire. Ils en font conclure qu'il a mérité dès le premier instant de sa conception. Enfin, et nous allons arrêter là, c'est le dernier article, est-ce qu'il a eu la claire vision de Dieu dès le premier instant de sa conception? Oui, le Christ, comme homme, a joui de la béatitude, c'est-à-dire qu'il voyait Dieu son Père dans son âme, au sommet de son âme, si on peut dire, à la fine pointe de son âme. Il contemplait son Père, et cela toute sa vie, même quand il sera en agonie. La partie inférieure de son être sera en émoi, mais dans la partie supérieure, il verra, il continuera à contempler Dieu. C'est pourquoi il pourra dire, tout en étant sur la terre, il parlera du Fils de l'homme qui est au ciel. Le Christ, comme homme, a joui de la béatitude dès le premier instant de sa conception. La grâce dont il avait la plénitude ne pouvant être oisive en lui, il posséda dès ce moment la claire vue de Dieu, beaucoup plus parfaitement que tous les habitants du ciel. Donc nous allons arrêter là pour la prochaine fois, approcher maintenant du mystère de la nativité, mystère qu'il conviendra d'aborder puisque nous serons à une semaine de Noël. Donc je pense que ces textes sont très beaux, ces réflexions sont très un petit peu difficiles bien sûr, mais je pense qu'elles sont importantes pour sauvegarder le sens de la foi, le sens de notre Seigneur, et montrer toujours l'harmonie du plan divin. On retrouve en notre Seigneur à la fois donc un être absolument extraordinaire, bien sûr supérieur à tous les autres hommes, de par l'union qu'il y avait déjà dans son humanité avec la divinité. Mais on trouve en même temps le souci qu'a eu le bon Dieu de faire en sorte que notre Seigneur soit vraiment aussi un homme en tout semblable aux autres, hormis le péché bien sûr, et ceci pour s'accommoder à notre faiblesse et pour que nous puissions avoir un modèle à suivre. Donc je pense que c'est... ces réflexions devraient ensuite servir aussi à alimenter notre méditation. Et puis en même temps aussi, je pense, rien que par exemple cette instruction que vous avez eue ce soir répond à toutes les thèses modernistes. Les thèses modernistes qui affirment que le Christ aurait soi-disant pris conscience de sa divinité au moment des noces de Cana, lorsque la Sainte Vierge lui a dit « ils n'ont plus de vin ». Alors il dit « oui, finalement, c'est vrai ». Je ne suis pas si mal que ça, puis c'est vrai que j'ai quand même des puissances en moi qu'il faudrait peut-être que je mette en exercice. Et en ce moment-là, il a pris conscience qu'il était Dieu. Voilà ce qu'on enseigne aujourd'hui. Donc là, rien que ce cours de ce soir est très important pour réaffirmer que c'est dès l'instant de sa conception que notre Seigneur, bien sûr, était Dieu, puisqu'il était déjà Dieu de toute l'éternité, mais que cette divinité s'est unie à son humanité. Et c'est dès cet instant qu'il a vraiment eu conscience du rôle qu'il devait jouer pour le rachat de nos âmes. Voilà.